Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain.
Le sportif. Terrain. Le
sport. Y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain.
Le sportif. Terrain.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à l'émission Le terrain sportif, votre émission hebdomadaire de sport sur les ondes de CSM, CFAC, tous les lundis matin, 10h30, midi, sur les ondes de CSM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, et bien entendu en rediffusion les lundis soirs, CFAC, 20h30, 10h, pour du soccer de Montréal à Sherbrooke, du basketball, du football, du volleyball, la crosse, toute la boxe, on a toutes sortes de sports pour vous, et cette semaine, eh bien, on parle soccer, on parle boxe et on parle actualité, surtout résultats sportifs du cégep et du monde universitaire. Wissam Benstar en onde avec vous pour la prochaine heure et demie. Cette semaine, beaucoup également de chansons, des nouveautés francophones faisant partie du palmarès de CISM et de CFAC. On vous rappelle que cette édition du 16 septembre 2024, pour pouvoir faire des commentaires ou des questions, vous voulez envoyer un petit thumbs up pour l'émission, vous voulez participer à l'émission, vous voulez partager des anecdotes dans le monde du sport, ou vous voulez tout simplement qu'on couvre un sujet pour vous, eh bien, deux façons de nous joindre, Sport CISM, ça c'est le compte Instagram de l'émission, donc Sport avec un S, C-I-S-M, le tout dans un mot. Et également par courriel sport avec un S, CSM 2023 en chiffre. Donc sport CSM 2023 en chiffre à commercialhotmail.com. Le tout dans un mot, sport CSM 2023 à commercialhotmail.com. On va parler de McGill. L'équipe de soccer va très bien. On va parler des Carabins également au football. Un peu d'actualité universitaire. Mais on commence cette émission avec le CF Montréal. Après une grande trêve à cause des matchs internationaux où est-ce que le Canada a notamment battu les États-Unis, CF Montréal était de retour à domicile contre Charlotte FC. Charlotte, c'est le club l'année dernière qui a gagné lors de la dernière journée de la saison à MLS pour prendre et voler, entre guillemets, le billet aux séries éliminatoires du CF Montréal. Est-ce que le CF Montréal méritait de faire les séries l'année dernière? Certains diront que oui. D'autres diront que non. Le fait est que l'année dernière, ça a été une saison difficile. Et cette année, c'est une saison aussi difficile, mais malgré ça, le CF a quand même gagné 2-1 contre Charlotte City FC. Donc, tout d'abord, il faut donner des petites félicitations à notre ami Caden Clark parce qu'il a marqué un but et sur le deuxième but, il fait une passe à profondeur là, au latéral gauche. Après ça, qui remet dans la surface pour Bryce Duke et ça a été vraiment l'homme du match selon moi dans ce match-là. C'était un match que le CF Montréal devait absolument gagné, avec dans le 11 initial, Joseph Martinez comme attaquant. Gardien de but, Jonathan Sirois. Défense à 3, George Campbell, Gabriel et Corbeau, Fernando Alvarez. Les deux milieux de terrain défensifs, Nathan Saliba, Samuel Piette. À gauche, Ryan Edwards. À droite, Marshall Routy. Et les trois de devant, Bryce Duke, Caden Clark et Joseph Martinez. Donc encore une fois, énormément de rotation dans le 11 initial, surtout en attaque de la part de Laurent Courtois. Bryce Duke a souvent débuté les matchs, Joseph Martinez la plupart du temps également. Et Caden Clark maintenant qui prend sa place et avec toute une performance. Sur le banc, on a Coccaro qui est rentré, Vilsain, Yankov, Tom Pierce et Bougage. Et les remplaçants qui n'ont pas joué, Sébastien Breza, le gardien de but. Victor Wanyama, le joueur désigné. Kwadwo Opoku, qui n'a pas joué. Ibrahim Sounoussi, qui n'a pas joué également. Ibrahim Sounoussi, qui est d'ailleurs un des meilleurs buteurs du club, il faut le mentionner. Et c'est d'ailleurs le meilleur buteur du club avec 6 buts. C'est quand même pas mal du tout. D'ailleurs, c'est le joueur dans l'équipe qui marque le plus souvent avec la fréquence la plus élevée. Donc, il marque un but à tous les 100, à toutes les 157 minutes. Donc, ça, c'est plus qu'à tous les deux matchs. Donc, bon, on sait qu'il a été exclu il y a de ça plusieurs semaines, voire des mois, pour l'effort à l'entraînement ou l'attitude à l'entraînement, selon ce que Laurent Courtois, l'entraîneur, avait dit. Et depuis, il a très peu joué. Donc, un très beau match par le CF Montréal qui a bien commencé. Ils ont pris les devants 2-0 déjà en première mi-temps. Après ça, une égalisation de la tête de Charlotte qui... c'est un but qu'ils ont marqué, mais ils n'ont pas vraiment produit beaucoup de jeux pour déranger Jonathan Sirois. C'est Tim Ream qui a marqué, le défenseur central. Mais mis à part ça, ça a été un match quand même contrôlé essentiellement par le CF Montréal avec une possession là, de 59% contre 41%. Expected goals, 1.36 pour le CF contre 1.02. 4 grosses opportunités pour le CF contre 3 pour Charlotte. Et au total des tirs, eh bien, c'est 14 contre 11. On peut dire que c'est un match mérité. C'est un match que le CF Montréal, il n'y avait pas d'autre façon. Il fallait absolument le gagner. Il n'y avait pas le choix. Et puis, ils l'ont fait. Et maintenant, quand on regarde le classement dans la conférence de l'Est pour la course aux séries éliminatoires, puisqu'il reste là pour le CF Montréal 6 matchs à jouer. C'est une saison de 34 matchs. Certaines équipes ont déjà 29 matchs de jouer, d'autres en ont 27, comme le dernier de la conférence de l'Est, la Nouvelle-Angleterre. On commence par ceux qui ont bien fait cette saison. Les meilleurs dans l'Est, l'Inter de Miami, premier avec 62 points. Ça, c'est le club de Lionel Messi, bien entendu, qui vient de revenir et de fêter son retour au jeu avec d'ailleurs 2 buts. Deuxième, Cincinnati avec 52 points. Troisième, Columbus avec 50. Quatrième, New York Red Bulls, 43. Cinquième, Orlando City, 40 points. Sixième, New York City, 40 points. New York City, d'ailleurs, là, pour ceux qui ne le savent pas, qui jouent au Yankee Stadium, ils sont en train de se faire construire un stade, là, mais bon, faut dire que c'est vraiment pas un stade de soccer, le Yankee Stadium, donc c'est quand même assez cocasse qu'il joue là-bas. C'est une équipe quand même, New York City, qui a eu des très grands joueurs, mais ils n'ont pas eu le meilleur stade. Ils ont un des meilleurs stades au monde pour le baseball, mais pas là pour le soccer. Contrairement aux New York Red Bulls, qui eux jouent du côté là, de New Jersey à Harrison, New Jersey. Ils ont le Red Bull Arena qui est leur vrai stade. Donc, est-ce que le New York City FC éventuellement voudrait peut-être occuper le même stade que New York Red Bulls? Eh bien, la réponse est non, puisqu'ils auront un stade éventuellement. Donc voilà, c'est dit pour nos amis de New York City FC, d'ailleurs, qui posent souvent des problèmes là, au CF Montréal. Septième, Charlotte avec 38 points, donc c'était très important de les battre pour peut-être éventuellement, avec des gros si, de peut-être les rattraper. Huitième, Toronto avec 36 et neuvième, DC United avec 33 points. Huitième et neuvième place, comme je le dis souvent, c'est les deux places, les deux dernières places pour participer aux séries éliminatoires. Le huitième et le neuvième s'affrontent et le gagnant de ce match-là va jouer contre le premier. Qui est le premier? L'Inter de Miami. Donc, pour avoir Lionel Messi qui vient faire un tour chez toi, il faut quand même finir 9e ou 8e. Puis après ça, tu as une bonne chance de l'affronter puisque l'Inter Miami là, est 10 points devant le 2e à l'heure actuelle. Donc, c'est 1er contre 8e, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4e contre 5e. 10e, Atlanta United, 28 matchs joués, 31 points. 11e, Philadelphie, 28 matchs joués, 30 points. CF Montréal, 12e, 28 matchs joués, 30 points. Et donc, le CF Montréal est à 3 points d'une place qualificative pour les playoffs. Cependant, ils ont un match de moins de jouer que DC United, donc ils pourraient rattraper DC United. Et le premier critère, c'est le nombre de victoires. Et à l'heure actuelle, eh bien, la plupart des équipes là, entre le 8e et la 15e place ont toutes 7 ou 8 victoires, sauf Toronto FC qui en a 11, donc en cas de critère d'égalité, Toronto FC là, serait très fortement favorisé. 13e, Chicago, 29 matchs joués, 29 points. Nashville, 28 matchs joués, 29 points. La Nouvelle-Angleterre, 27 matchs joués, 27 points. Donc, si la Nouvelle-Angleterre gagne le match en main qu'ils ont, eh bien, ils seraient à la hauteur du CF Montréal en termes de points. Maintenant, on va vous donner le classement, les résultats, pardon, du week-end dernier. Nashville, 2-0 contre Atlanta. Inter Miami, 3-1 contre Philadelphie. DC United, New York City, 1-1. Cincinnati, Columbus, 0-0. Toronto bat Austin, 2-1. Orlando, Nouvelle-Angleterre, 3-0 pour Orlando. Houston, 4. Real Salt Lake, 1. Chicago, 2. New York Red Bulls, 1. Minnesota s'impose à Saint-Louis, 3-1. Colorado, Portland, 2-1. Vancouver, 2-0 contre San Jose, qui est la pire équipe de la Ligue. Et Los Angeles FC, dans le Clásico qu'on appelle le Tráfico, hein, parce qu'on le sait en espagnol, Clásico, ça fait référence au match entre le Real Madrid et l'FC Barcelone. Eh bien, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le Tráfico, parce que Los Angeles est une ville bourrée de trafic. Et donc, quand Los Angeles Galaxy joue contre Los Angeles FC, on appelle ça le Tráfico. Et dans le Tráfico, eh bien, c'est Los Angeles Galaxy qui a gagné 4-2 à domicile avec deux buts de Jovelich, Sergio et Ricky Puig, le catalan. Et pour Los Angeles FC, le polonais Bogus et Denis Bouanga, qui n'est pas polonais, mais bien gabonais, ont marqué les deux buts pour Los Angeles FC. Donc, voilà. Maintenant, avant de parler des meilleurs buteurs du classement, on va faire une petite pause musicale. Non pas musicale, mais bien musicale. Et on revient après ceci. Vous écoutez le Terrain sportif, édition du 16 septembre 2024, sur les ondes de CSM et de CFAQ. Bougez pas. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, vous écoutez l'émission Le Terrain sportif, émission hebdomadaire de sport, édition du 16 septembre 2024. Wissam Metz avec vous au micro pour encore environ une bonne heure. Donc, trois chansons back-à-back. Alléluia de Les Passagers. Ensuite, Voyage à la mer de Solitaire, tiré de l'album encore une fois, Solitaire. Et après ça, eh bien, une chanson qui date, Rave Melancholy de Sleazy, album From Quebec with Love. Donc ça, c'est une chanson un peu là, d'électro. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez à mon goût, puis encore moins des chansons avec des artistes locaux. Donc j'ai vraiment aimé cette chanson. Shout out à l'artiste Sleazy et la chanson Rave Melancholy. C'était du bon travail. Maintenant, on va retourner au travail, puis on va vous parler CF Montréal, on a parlé de la conférence de l'Est. Maintenant, on va aller dans l'Ouest avec Los Angeles FC, avec le LA Galaxy. Qui sont les équipes qui mènent à date dans cette conférence-là? Eh bien, les deux équipes de Los Angeles sont première et deuxième respectivement avec 55 et 48 points. Troisième, Colorado. Quatrième, Salt Lake. Cinquième, Seattle. Sixième, Vancouver. Septième, Houston. Huitième, Portland. Neuvième, Minnesota. Dixième, Dallas. Treizième, Austin. 12e Sporting Kansas City, 13e Saint-Louis et 14e la risée de la Ligue San Jose. Donc dernier dans la Ligue nationale, si je ne m'abuse, l'année dernière au hockey, et dernier, bien entendu, dans la MLS. Donc ils ont du travail à faire et comme on dit en bon français, ils ont du pain sur la planche. Et parlant de pain, eh bien, il y a des joueurs qui ont été bien payés à cause de leur performance. Donc, qui sont les joueurs étoiles de cette ligue de la MLS? Les meilleurs buteurs, Christian Benteke, le Belge, avec 19 buts, c'est le meilleur de la ligue. Christian Arango de Salt Lake avec 17. Luis Suarez, l'ami à Messi, avec 17. Denis Bouanga avec 17. Lionel Messi avec 14. Et après ça, on a beaucoup de joueurs là, 14 buts, notamment Rafael Navarro, Dejan Jovelic, Peter Moussa, Cucho Hernandez qui en a 13. Et quant au CF Montréal, le meilleur buteur, eh bien, c'est avec 6 buts, c'est Ibrahim Sounoussi. Lusanio Acosta est le meilleur passeur de la ligue avec 15. Sinon, Evander des Portland Timbers a 13 passes. Lionel Messi, lui, est 4e avec 10 passes. Et sachant qu'il a manqué énormément de matchs, là, ça en dit long sur la performance de ce joueur de qualité mondiale. Les meilleurs buteurs sur coup franc cette année, c'est ce qu'on aime voir, des buts sur coup franc spectaculaires. Eh bien, le Polonais Mateusz Bogucz de Los Angeles FC en a 2. Albert Rusnak de Seattle en a 2. Luca Orellano de Cincinnati en a 2. Et Evander de Portland en a également 2. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour le 11 Montréal, pour l'équipe du CF Montréal? Eh bien, les prochains matchs, le prochain match, c'est le 18. Donc ça, c'est après-demain, mercredi. Il se déplace du côté de la Nouvelle-Angleterre pour un match crucial, capital. Et sachant qu'on a perdu 5-0 à domicile contre cette même équipe-là, on va voir de quel bois se chauffe le chef Montréal et s'ils vont être capables de chercher un résultat. Sinon, après ça, samedi prochain, le 21, Montréal reçoit Chicago. Ensuite, Montréal reçoit San Jose le 28 septembre. Le 2 octobre, Montréal se déplace du côté d'Atlanta. Le 5 octobre, du côté de la Charlotte. Et on termine le tout le 19 octobre 2024 à 18h cette fois-ci, non pas à 19h30 comme à l'habitude, contre New York City FC. Donc voilà, c'était les actualités et les classements, les résultats du côté de la Major League Soccer. Maintenant, on va parler boxe. Il y avait un combat de boxe, un gala de boxe samedi dernier, le 14 septembre, du côté de la TAU à Montréal. Et puis, ça a été une première expérience pour moi là-bas, accrédité bien entendu avec l'ami et le collaborateur William Dumoulin. Et puis, c'était intéressant, on a parlé boxe pas mal toute la soirée. J'en ai appris beaucoup, puisque lui, c'est l'expert de la boxe, là, alors que moi, la boxe, je la suis, mais je ne suis pas un expert comme M. Dumoulin, qu'on a reçu alors, d'ailleurs à l'émission, là, il y a 2-3 semaines de ça, disponible sur les podcasts de CSM. Il y avait 9 combats qui devaient avoir lieu. Finalement, il y en a eu juste 8, puisqu'il y en a un qui a été annulé, ce qui est très correct, puisqu'il y a déjà eu des galas où est-ce qu'il y avait 6 combats qui devaient se passer, puis il y en avait juste eu 4 qui ont lieu. Donc, 8 combats, c'est quand même très bon. Certains de ces combats ont été courts, et ça a commencé avec Natalie Fagan contre Maxime Novozedlik, des boxeuses avec très peu d'expérience. Natalie Fagan l'a emporté. Il n'y a pas eu de knockout dans ce combat-là. Ensuite de ça, Sammy Morissette contre Obed Sepulveda. Sammy Morissette l'a emporté à ses débuts devant sa foule. Blaise Sylvestre contre Alexandre Perron. Ça, c'était tout un combat. Ça l'a vraiment, là, il n'y a pas eu de quartier là-dedans. Ça s'est donné à cœur joie. Beaucoup de coups des uns et des autres dans ce combat super plume. Et c'est Alexandre Perron de Victoriaville qui l'a emporté pour ses débuts. Donc, félicitations à lui. Et Blaise Sylvestre, bien entendu, qui était un peu, qui était très déçu du résultat. Marc Chéry contre Reed Thoway, c'est Marc Chéry qui l'a emporté. Il y a eu le combat entre Jean Gardy, François et Frédéric Thomas qui a été annulé à cause, il y a eu des petits soucis là à la pesée, puis un des deux boxeurs qui a refusé le combat s'il n'y avait pas une somme versée ou quelque chose comme ça. C'est les informations que j'ai eues de William Dumoulin. Donc le poids était sensiblement pas ce qu'il devait être, je crois, pour Jean Gardy François. Et Frédéric Thomas était mécontent de ça. Puis finalement, il ne s'est pas présenté pour le combat. Autre combat, Théotilus Owosu de Pierrefonds, qui est quand même à 4 victoires, une défaite contre John Elroy Fruto. Eh bien, c'est Owosu qui l'a emporté. Elroy Fruto qui a d'ailleurs soulevé son adversaire à la fin. Là, c'est la première fois que je voyais ça. Beaucoup, un bon état d'esprit. Pour le joueur, le boxeur de Surrey en Colombie-Britannique qui a vraiment eu une belle attitude et qui a soulevé son adversaire qui l'a battu, Owosu, qui était très content d'ailleurs, et donc qui est maintenant à 5 victoires. Jay Beard contre Shane Upshaw, ça c'était le gros combat de la soirée, c'était les poids lourds avec, c'est pas souvent qu'on a des combats de poids lourds là au Québec, et puis c'était le champion Jay Beard qui était en action contre Upshaw pour les poids lourds. Et puis Jay Beard a fait seulement qu'une bouchée de son adversaire qui est tombé 3 fois au sol, au tapis. Et puis finalement, la troisième fois, là, il a abandonné. L'arbitre a rendu la décision envers Beard qui remporte un combat. Écoutez, c'était impressionnant honnêtement. Mais Upshaw n'avait pas l'air prêt réellement pour ce combat-là. Ça a été très, 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 un peu trop facile pour Beard, malheureusement. Heureusement pour lui, malheureusement pour les spectateurs là, qui n'ont pas eu beaucoup de rounds dans ce combat-là. Ensuite de ça, c'était un des chouchous de la foule, Mathieu Germain, G-Time. Ça, c'est un des rares boxeurs du côté du Québec qui peut gagner sa vie de la boxe. Selon William Dumoulin, c'est un boxeur qui a beaucoup de sponsors, donc ça l'aide beaucoup. Il affrontait Christian Palma. Donc, Mathieu Germain, lui, qui avait 24 victoires, dont 9 par KO. Et Christian Palma, lui, c'était 33 victoires, dont 7 par KO. Christian Palma, qui vient du Chili. Et puis là, je dois pousser un peu un coup de gueule là-dedans, dans le monde de la boxe. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Et ce qui me gêne, c'est que c'est un sport très, très, très local. Je m'explique. On le sait, par exemple, dans le monde du soccer européen, les équipes à domicile gagnent plus souvent. Dans les sports nord-américains, c'est un peu moins vrai. Mais au soccer, c'est un sport où est-ce que l'équipe locale gagne souvent, plus que dans les autres sports. Dans le monde de la boxe, c'est encore pire. De tous les galas de boxe auxquels j'ai assisté, c'est très souvent le local qui gagne, à 90-95%. Souvent, l'intérêt n'est pas d'avoir un adversaire, j'ai l'impression d'avoir un adversaire qui peut rivaliser et battre le boxeur local. Souvent, j'ai l'impression que c'est plus une question de trouver un adversaire pour que le boxeur local puisse se battre, avoir un tout petit peu de challenge et remporter la victoire devant les spectateurs. Donc, samedi, le Chilien Cristian Palma n'était pas prêt pour le combat contre Mathieu Germain. Cristian Mauricio Palma Candilla de Lautaro au Chili. Classé 765e sur 2373 boxeurs. Et Mathieu Germain en a fait qu'une bouchée. Et également, il faut mentionner ça, c'est que Mathieu Germain l'a un peu mis au sol. Hein, il y avait, avec un faux mouvement, on va dire. Ils sont comme entrelacés les uns les autres. Puis après ça, Mathieu Germain l'a soulevé puis l'a mis au sol. Et puis l'arbitre n'a pas enlevé de points à Mathieu Germain. Donc je trouve ça aussi également un peu bizarre que on a un boxeur québécois avec un arbitre québécois contre un boxeur chilien. Selon moi, ce serait peut-être mieux d'avoir un arbitre neutre. Donc peut-être Ontario, Nouvelle-Écosse, Vermont, New Hampshire, n'importe où. C'est comme si l'équipe nationale d'Argentine joue au soccer contre l'Ouzbékistan, puis l'arbitre, c'était un Argentin. Donc, ça ne serait pas correct non plus. Donc, j'ai un peu de difficulté avec ça. C'est quelque chose qui me gêne des fois dans le monde de la boxe. C'est que les boxeurs locaux l'emportent systématiquement et très, très, très souvent. D'ailleurs, un petit mot pour Cristian Palma. Il est suspendu par la Fédération chilienne jusqu'au 13 mars 2025. Donc, ça ne va pas très bien pour lui, là. Il est venu. Il a cherché son montant d'argent parce que les joueurs sont payés. Le vol, l'hôtel, tout ça, ils arrivent 2-3 jours avant. Ils se pratiquent, ils s'échauffent. Puis après ça, bon, ça se passe. Le combat arrive. Mathieu Germain en a fait qu'une seule bouchée. Donc là, on va voir si Mathieu Germain va pouvoir avoir un autre combat contre un adversaire qui va un peu plus le titiller. Parce que Cristian Palma, c'était pas ça. Obed Sepulveda, le Mexicain également, c'était pas ça du tout. John Elroy Fruto, bon, c'est un Canadien, mais qui vient de la Colombie-Britannique. C'était pas un boxeur local. Il s'est fait également massacrer, si on peut dire ça comme ça. Shane Upshaw de Halifax a été très compliqué pour lui. Quoique ça, c'était pas contre un boxeur local. Mais des fois, on dirait qu'il y a beaucoup de combats où est-ce qu'avant même 30 secondes de boxe, on sait déjà qui va gagner. Et c'est ce qui s'est passé pas mal toute la soirée. Et pour le dernier match où est-ce que la ceinture est en jeu, Jessica Camara l'a emporté là, très facilement contre Bonnie Hunter. Si je ne m'abuse, c'était là 100 à 90. Parce que vous le savez que dans la boxe, tu peux avoir 9 points ou 10 points pour chaque ronde que tu gagnes. Il y avait 10 rondes. Donc, elle les a gagnées toutes contre Bonnie Hunter de Scarborough. Avec 4 victoires et 2 knockouts, alors que Jessica Camara, c'est 13 victoires et 3 knockouts. Elle avait 4 défaites à sa fiche. D'ailleurs, elle a boxé pas très loin d'ici, au New Hampshire. On pense pas qu'il y a grand-chose qui se passe du côté du New Hampshire dans le monde du sport. Mais oui, il y a des galas de boxe dans la ville de Manchester, au New Hampshire. Allez amener votre copine, votre femme, allez faire un petit road trip là-bas. Et je pense que c'est dans l'état aussi du Mont Washington, qui est d'ailleurs la montagne, si je ne m'abuse, où est-ce que le vent le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité a été recensé par un être humain. Là, ça a été sur le Mont Washington, si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça, on reviendra avec les détails là, un peu après ceci. Donc voilà, donc félicitations à Jessica Camara, qui garde son titre. Mis à part ça, il y a un autre gala cette semaine qui s'en vient avec un des meilleurs boxeurs de l'histoire du Québec. Jean Pascal contre Terry Ozias, c'est samedi soir du côté du Colisée de Laval. Malheureusement, je serai absent puisque j'ai des obligations familiales, mais vous pouvez être assuré que je vais suivre et qu'on va en parler lundi prochain. Et en ce qui a trait au Mont Washington, là, c'est plus de 369,6 km/h de vitesse de vent. Ça a été enregistré là une après-midi du 12 avril 1934, donc il y a presque 100 ans. Ça n'est pas le record, malheureusement. Là, je pensais que ça l'était. Le record, c'est 253 miles per hour. Donc ça, en bon français, là, en canadien, ça fait 404,8 km par heure. Barrow Island, Australie, le 10 avril 1996, avec l'anémomètre qui a enregistré cela. Donc, ceux qui ne connaissent pas là, le Mont Washington, c'est un mont où est-ce que c'est une randonnée incroyable à faire. Et puis, vous voyez des fois des gens qui ont un autocollant sur leur véhicule. C'est écrit « This car climbed Mount Washington », ce qui veut dire « Cette auto a monté le Mont Washington ». Eh bien, c'est une vue spectaculaire, mais également, il faut faire très attention à avoir des pneus d'hiver, avoir des pneus de bonne qualité, des bons freins, parce que la route, ça monte beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup d'espace entre la route et la falaise où est-ce que tu tombes en bas. Et puis, pour descendre également, là, ça prend des très bons freins. Donc, allez-y pas là, avec une Toyota Corolla 1990 rouillée avec des freins là, de chez Walmart. Là. Achetez-vous des bons petits freins et des bons petits pneus. Donc voilà, sur ce, on s'en va en musique et on revient après ceci. De retour à l'émission Le Terrain Sportif sur les ondes de CSM et CFAC, votre émission sportive hebdomadaire, édition du 16 septembre 2024. Oui, Sam Metzler en onde avec vous pour encore quelques minutes. On vient d'entendre trois chansons back-à-back, « Crisser son camp » de Robert Fuzzy et « Les chiens fous ». Ensuite, c'était « Tabarnak » de Reptile Rampant et « Calisse-moi là » de Lisa Leblanc. Voilà une petite thématique que j'ai décidé de mettre pour trois chansons back-à-back. Donc maintenant, on va parler un peu de sport universitaire, puisque à la base, nous sommes des radios universitaires CSM et CFAC. On sait CSM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, et CFAC, la radio de l'Université de Sherbrooke, avec les équipes du Vert et Or, dont certaines vont très mal régulièrement, notamment le soccer masculin et féminin. C'est pas Jojo comme dirait Jojo Savard. On va y aller avec le rugby masculin et rugby féminin universitaire. Donc tout d'abord, rugby masculin. Le week-end dernier, eh bien, McGill l'a emporté 24-6 contre les Carabins. L'école de technologie supérieure, l'ETS, 43-10 contre Bishops. Et Ottawa, les GGs, 34-22 contre Concordia. Donc au classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Ottawa, 9 points total. Premier, deuxième McGill, troisième l'ETS, quatrième Bishop, cinquième Montréal, sixième Carleton et septième Concordia. À noter là, que Carleton, l'université, là, les Ravens de Carleton d'Ottawa, ont 0 points marqués et 60 points encaissés. Là, ça, c'est en un seul match joué. Ils ont perdu 60-0 contre Bishops. Puis Bishops, après ça, ils ont perdu 43-10 contre le TS. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas du tout le même niveau dans cette ligue-là. Maintenant, côté féminin, qu'est-ce que ça donne? Premier, Ottawa avec 15 points. Deuxième, Laval, 12 points. Troisième, Concordia avec 10. Quatrième, Montréal avec 4. Carleton, cinquième avec 3. Bishops, sixième avec 3. Et McGill, les Martlets, eh bien, elles ont 0 points. Et quand on regarde là, les résultats, ben Laval, par exemple, ils ont battu Carleton 71-0. Il y a beaucoup là, de matchs totalement inégaux, 69-3 pour le Rouge, encore une fois, contre Bishops. Et malgré ça, là, Laval, malgré ces deux victoires écrasantes, ils ont quand même perdu contre Ottawa 31-26. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des équipes d'Ottawa qui font partie du RSEQ, donc du Réseau du sport étudiant québécois, c'est tout simplement pour à cause du fait qu'il y a une proximité géographique entre le Québec et Ottawa. C'est beaucoup plus près pour les équipes d'Ottawa de jouer au Québec que d'aller jouer à Toronto, Windsor et compagnie. Donc maintenant, pour le soccer universitaire masculin et féminin, on va vous en parler, mais avant, on va parler du football américain. Il y avait deux matchs le week-end dernier universitaire. Donc Laval, le Rougeur, l'emporte 45-12 au stade Percival Molson contre les Redbirds de McGill. Et les Carabins l'emportent 30-18 contre les Stingers de Concordia au Sepsum. Prochain match le week-end prochain. McGill se déplace à Concordia et le Varieur de Sherbrooke se déplace du côté du Rouge et Or de l'Université Laval à Québec City. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Premier, le Rouge et Or avec 6 points. Deuxième, Montréal avec 6 points. Troisième, Montréal, pardon, qui a joué, par contre, qui a joué 4 matchs au lieu de 3. Donc, l'équipe de l'heure, c'est vraiment le Rouge et Or de l'Université Laval là, dans cette ligue-là. Concordia, 3e avec 2 points. McGill, 4e avec 2 points. Et Sherbrooke, 3 matchs joués, 3 défaites, 0 points. Il faut le rappeler, il y a seulement 5 équipes au Québec dans le football universitaire. Et donc, les 4 premières sont qualifiées pour les séries éliminatoires avec le premier et le deuxième qui auront l'avantage de recevoir à domicile. Ou tout simplement de recevoir pour ne pas répéter la même chose deux fois. Maintenant, soccer universitaire masculin extérieur. Premier, Carabin avec 12 points. Deuxième, Concordia avec 9. Troisième, Trois-Rivières avec 7. Quatrième, McGill avec 5. Cinquième, l'UQAM avec 4. Laval, sixième avec 3. Et le Varieur de l'Université de Sherbrooke avec un petit point. 4 défaites et un match nul. La meilleure attaque dans le circuit, c'est bien sûr les Carabins de l'Université de Montréal, qui ont marqué 13 buts en 5 matchs et ils ont accordé seulement 2 buts, notamment une victoire très surprenante avec la façon avec laquelle ça s'est fait, de 7 buts à 1 contre Trois-Rivières. Ça se passait dimanche dernier. Écoutez, là, 7 à 1 contre Trois-Rivières. Trois-Rivières qui est l'équipe championne du Québec en titre. C'était les premiers et deuxièmes au classement avant ce match-là. Et ça a été là, le party à Trois-Rivières pour l'équipe de Montréal. Donc avec des buts de Aubert-Hubert Poulain, le triplé pour Maxime Filion, 2 buts pour Samir Mohamed Djeha, l'ancien des Cavaliers de Saint-Lambert, et Najib Chemil, lui également, qui a marqué son petit but. 3 passes dans le match là pour Zachary Bellamri, et Quentin Paumier, le capitaine, lui, a récolté une petite passe. Et pour Trois-Rivières, eh bien, nul autre que Gabriel Wettenhauper Balbinotti, la légende de Trois-Rivières au soccer, qui a marqué, lui, son petit but. Donc voilà, ça fait les petites actualités du sport universitaire. Maintenant, on va y aller pour terminer avec le soccer féminin extérieur. Au classement, McGill, première avec 13 points, deuxième Montréal, 12, troisième Laval avec 9, quatrième l'UQAM avec 9, l'UQTR, 5e avec 4 points, 6e Sherbrooke avec 4, Bishop, 3 points, 7e Concordia, 8e avec un petit point. Maintenant, on va parler des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, parce que ça se passe. Il faut se rappeler là, que ça s'en vient dans moins de 2 ans, la Coupe du Monde qui va se passer Canada, États-Unis et Mexique. Au Canada, bien sûr, les villes de Toronto et de Vancouver ont été sélectionnées. Donc, on commence par la zone asiatique. 3 groupes de 6 équipes, les 2 premiers étant qualifiés pour la Coupe du Monde automatiquement, et les 3e et 4e de chaque groupe ont une opportunité encore pour se battre entre elles pour essayer de trouver une petite qualification pour la Coupe du Monde. Donc le groupe A, 6 équipes composent ce groupe, et dans l'ordre, l'Ouzbékistan premier avec 6 points, 2e l'Iran avec 6, donc qualifié à l'heure actuelle pour la Coupe du Monde, 3e Émirats Arabes Unis, 4e la Corée du Nord, 5e le Qatar avec un petit point et le Kyrgyzstan 6e avec 0 point. Le groupe B, le premier la Jordanie avec 4 points, 2e la Corée du Sud avec 4, 3e l'Irak avec 4 points, 4e le Koweït avec 2, 5e la Palestine avec 1 point et 6e Oman avec 0 point. Et le groupe C, le Japon premier avec 6 points, 2e Arabie Saoudite avec 4 points, 3e, le Bahreïn avec 3 points. 4e, Indonésie, 2 points. 5e, Australie avec un seul petit point. C'est une surprise. Et 6e, le pays le plus peuplé de la planète, la Chine. Dernier, 2 matchs joués et 0 match gagné, 0 point. Côté de l'Afrique, eh bien là, c'est un peu plus compliqué. On a 9 groupes et le premier de chaque groupe se qualifient automatiquement pour la Coupe du Monde. Et parmi les deuxièmes, certains d'entre eux pourront compétitionner pour se chercher un petit billet pour la Coupe du Monde. Donc, le groupe A, l'Égypte est première avec 10 points. Le groupe B, le Soudan avec 10 points. Le Sénégal a 8 points. Donc, Soudan, Sénégal, troisième, Congo. Donc, ça va se joindre ces trois-là pour le billet pour la Coupe du Monde. Le groupe C, le Rwanda, 7 points. L'Afrique du Sud, 7 points. Le Bénin, 7 points. Le Nigeria, 5e sur 6 avec 4 matchs joués. 3 points, ça va très mal. Et si le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde alors qu'il y a 9 places minimum, ça serait une catastrophe. Le groupe D, le Cameroun mène avec 8 points, la Libye avec 7, le Cap-Vert également. Le groupe E, le Maroc avec 9 points, 2e le Niger avec 6, 3e la Tanzanie avec 6. Le groupe F, la Côte d'Ivoire avec 10 points, le Gabon avec 9. Le groupe G, l'Algérie première avec 9 points et le Mozambique deuxième avec 9 points. Le groupe H, Tunisie 10 points, Namibie 8 points. Et le groupe I, les Comores, oui, cette petite île en Afrique, est bien premier du groupe avec 9 points et le Ghana également en a 9. Et Madagascar, qui n'est pas loin, ont 7 points. Et à l'heure actuelle, les meilleures équipes qui sont classées deuxième, eh bien le Gabon est premier avec 9 points, Ghana deuxième avec 9, troisième Mozambique avec 8, Namibie, Sénégal avec 8 points également. Maintenant, on va parler de les qualifications pour l'Amérique du Sud. Il y a seulement 10 pays qui essayent de se qualifier en Amérique du Sud, puisque Suriname, Guyane française et compagnie, eux, font les qualifications avec la CONCACAF, qui est l'Amérique du Nord et centrale également, plus les Caraïbes. Et sur les 10 pays de l'Amérique du Sud qui vont prendre part aux qualifications et qui prennent part aux qualifications, 6 sont automatiquement qualifiés. Et le 7e va jouer un match de barrage contre un autre continent. Ce qui veut dire que sur les 10 pays, seulement 3 sont garantis de ne pas se qualifier en Coupe du Monde. Donc vous direz, certains d'entre vous, vous me demandez, ben, c'est à peu près là 70% des pays qui peuvent se qualifier. Alors que dans les autres continents, c'est pas comme ça. Après ça, les détracteurs diront, oui, mais l'Argentine a 3 Coupes du Monde, l'Uruguay en a 2, alors que ça fait très longtemps. Là, pour l'Uruguay, on s'entend, là, ça fait de la dernière en 1950. Et le Brésil a 5 Coupes du Monde. C'est vrai. Donc, ce sont 3 pays géants, historiquement, dans le football mondial. Mais quand on regarde les autres pays, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, le Venezuela, l'Équateur, et même, on pourrait dire que la Colombie, si je ne m'abuse, ils n'ont jamais fait une demi-finale, ce ne sont pas des pays qui ont aspiré ou qui sont venus prêts d'être champions du monde. La Colombie, jamais. L'Équateur, jamais. Le Venezuela, jamais. D'ailleurs, ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Le Paraguay, une fois en 2010, ils ont titillé l'Espagne un peu, donc on peut leur donner ça. La Bolivie, en Coupe du Monde, jamais. Le Chili, oui, un peu. Puis le Pérou, un peu. Ça fait très longtemps pour le Pérou. Et donc, moi, je trouve ça injuste, qu'on donne 70% de place. 7 places sur 10 pour l'Amérique du Sud. Alors qu'en Afrique, c'est environ 9 à 10 places sur presque 60 pays. Là. Vous me direz, oui, mais en Afrique, les pays ont moins d'histoire en Coupe du Monde que l'Amérique du Sud. Je vais vous dire, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf qu'il faut rappeler les choses. Beaucoup de pays africains ont obtenu leur indépendance vraiment plus tard que les pays en Amérique du Sud. Et donc, le soccer s'est développé un peu plus tardivement. Mais quand on regarde les équipes africaines, beaucoup ont titillé. On a déjà le Maroc qui a été en demi-finale la dernière fois. On a le Ghana qui a fait un parcours excellent. Le Sénégal, pareil. Le Nigeria, le Cameroun, l'Algérie également. Donc tout ça, c'est de l'histoire également en Afrique. Et personne ne va venir me dire que, à l'heure actuelle, en 2024, en ce 16 septembre 2024, que l'Équateur, l'Équateur, le Venezuela, le Paraguay, la Bolivie, le Chili et le Pérou. Donc ça, c'est environ 6 pays sur 10. Il n'y a personne qui va venir me dire que ces 6 pays-là sont nettement meilleurs que Sénégal, Maroc, Algérie, Égypte, Afrique du Sud, Ghana, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali et compagnie. Alors, je trouve qu'il leur en donne un peu trop de place à nos amis de l'Amérique du Sud, de la Comebol. Mais au classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la première équipe au classement, c'est l'Argentine avec 18 points. La deuxième, c'est la Colombie avec 16 points. Troisième, l'Uruguay avec 15. Quatrième, l'Équateur avec 11 points. Cinquième, Brésil avec 10 points. Ça va mal pour le Brésil. Eux, qui ont des bons joueurs, mais ça manque de caractère. Là, en 8 matchs pour le Brésil, c'est 3 victoires, 1 match nul et 4 défaites. Là, ils ont perdu plus qu'ils ont gagné. Donc, 10 points. Venezuela, 6e avec 10 points. Après ça, 7e, Paraguay avec 9 points. Bolivie, 8e avec 9 points. Le Chili, 9e avec 5 points. Et le Pérou, 10e avec 3 points. Ça va très mal là, pour le Chili et pour le Pérou. D'ailleurs, le Chili, ils ont perdu à domicile contre la Bolivie. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc, chaque équipe va jouer 2 matchs. Un à domicile, un à l'extérieur contre toutes les équipes du groupe. À l'heure actuelle, 8 matchs ont été joués. Il reste 10 matchs de qualification en Amérique du Sud pour essayer de décrocher le bien. Les prochains matchs, eh bien, c'est le 10 octobre et le 15 octobre. C'est généralement une date FIFA qui contient 2 matchs. Donc, les matchs la semaine prochaine, le 10 octobre, ça sera Pérou qui va recevoir l'Uruguay, le Venezuela va recevoir l'Argentine, Bolivie reçoit la Colombie, le Chili va recevoir le Brésil, ça sera pas facile, et l'Équateur va recevoir le Paraguay. Ensuite, le 15 octobre, eh bien, l'Uruguay reçoit l'Équateur, Colombie reçoit le Chili, Brésil reçoit le Pérou, le Paraguay reçoit le Venezuela et l'Argentine va recevoir la Bolivie. Et pour ceux qui se demandent quand est-ce que ce sera le match Argentine-Brésil, eh bien, ça sera en mars 2025. Donc, voilà pour les qualifications de l'Amérique du Sud, de l'Asie et de l'Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant, on va y aller avec la NFL. On va parler un peu d'NFL après cette chanson de Charlotte Brousseau, J'irai, artiste de chez nous. On va parler de ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc, tout d'abord, les Raiders jouaient contre les Ravens et ça s'est terminé 26 à 23 pour les Raiders. Ça se passait du côté de Baltimore. Chargers, Panthers, 26 à 3 pour les Chargers. Saints qui battent sans avertissement les Cowboys, 44 à 19, ça se passait du côté du Texas. Buccaneers de Tampa Bay, 20, Lions de Détroit, 16. Les Colts qui perdent contre les Packers, 16 à 10. Browns de Cleveland, 18 à 13 contre les Jaguars. Les 49ers qui perdent au Minnesota, 23 à 17. Les Seahawks qui battent les Patriots, 23 à 20. Les Jets de Aaron Rodgers qui l'emportent 24 à 17. Une petite victoire pour un des meilleurs corps arrière de l'histoire de la NFL. Malheureusement, il n'a seulement qu'un Super Bowl à son actif. Les Giants qui perdent à Washington 28 à 17. Les Rams qui perdent du côté de l'Arizona 41 à 10. Steelers Broncos 13 à 6 pour l'équipe de Pittsburgh au Colorado. Bengals 25, Chiefs 26. Encore une fois, une autre victoire pour Patrick Mahomes. Le seul d'ailleurs qui pourrait peut-être un jour dépasser Tom Brady. Il a déjà plusieurs Super Bowls à son actif puis il est encore très jeune. Et les Texans de Houston qui battent les Bears de Chicago 19 à 13. Et pour ceux que ça intéresse, il y avait un match de football dimanche également. C'était Millsaps Majors contre John Melvin Miller's University. Eh bien, Millsaps Majors l'ont emporté 46 à 10. Donc, au classement de toute la ligue à l'heure actuelle, les équipes qui sont invaincues, les Bills, les Buccaneers, les Saints, les Vikings, les Seahawks, les Texans, les Chargers, les Steelers et les Chiefs. Et les équipes qui n'ont pas gagné un match à date, donc qui ont perdu tous leurs matchs, les Ravens, les Colts, les Bengals, les Titans, les Jaguars, les Rams, les Broncos, les Giants et les Panthers de la Caroline, et non pas les Panthers de la Floride. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait cette émission du terrain sportif sur les ondes de CSM et de CFAC. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissem Bensta au micro. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine, lundi. Au revoir.